série L'écran radiophonique, Radio Canut vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Vautours. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. À la porte, Françoise se lève et dit
« Je vois tête Nathalie. Non, reste ainsi, Hervé. Je vais ouvrir. »
Et elle sort du salon. Suit un couloir et ouvre la porte d'entrée.
Bonjour, Nathalie. Que se passe-t-il, mère ? Entre.
C'est ce qu'elle fait. La mère ferme la porte et guide sa fille au salon. Nathalie voit son frère qui est assis sur un fauteuil.
Ah, t'es là, toi aussi ?
Elle regarde sa mère.
Que se passe-t-il, mère ? Assieds-toi.
Elle va s'asseoir dans un fauteuil qui est à côté de celui de son frère. Sa mère s'assoit en face d'eux sur une chaise tapissée.
Voilà, je vous ai fait venir, c'est pour vous informer d'une très triste nouvelle. Cette nuit, un inspecteur de police m'a informé que Xavier avait été pris en otage en Iran.
Quoi ? Mais ce n'est pas possible !
Si, Hervé. Ne pleure pas, Nathalie. Ça ne sert à rien. Mon pauvre père. Mon pauvre père.
Hervé demande. Que comptez-vous faire, mère ?
Attendre et voir comment vont réagir ceux qui l'ont pris. Il n'a pas été pris seul. Il y avait 3 personnes avec lui. Le ministre de la Justice m'a dit qu'il ferait tout pour libérer les otages.
Hervé regarde sa mère, elle a l'air digne. C'est une femme de 50 ans, grande, mince, sèche, avec un visage serein mais énergique. Ses cheveux sont grisonnants. Elle porte une robe bleu roi.
Vous voulez du café ?
Ils font non de la tête. Nathalie demande.
Lorsqu'ils sauront qui est père, ils vont en profiter pour nous demander de l'argent.
Eh oui, c'est logique. Mettez-vous à leur place. Les armes pour faire la guerre, ça coûte très cher. Et puis, père est la plus grosse fortune de France.
Que comptez-vous faire, mère ?
La mère est surprise. Elle n'avait pas du tout pensé à une demande de rançon. Elle hausse les épaules et dit
« Payons, bien sûr !»
Nathalie lui dit « Il ne faudra pas se précipiter. Il vaudrait mieux que l'on se réunisse pour en parler. »«
Et ton père ?»
Sans que cela nuise à la libération de père, bien sûr. Hervé hausse ses épaules. « Arrêtez cette discussion. Cette demande d'argent est ridicule. » Ils ne prennent pas des otages pour de l'argent. C'est une affaire politique. Et je suis de l'avis de mère. S'ils nous demandent de l'argent, nous payerons. Il ne faut pas que mère reste seule. Nous nous relayerons pour vivre avec elle.
Mais non, je peux très bien vivre seule. J'ai des domestiques. Vous allez rentrer chez vous. Je vous préviendrai chaque fois qu'il y aura du nouvelle. Je vous ai fait venir, c'est pour ne pas apprendre par téléphone cette affreuse nouvelle.
Elle se lève.
Allez, mes enfants, rentrez chez vous.
Il se lève. Elle les regarde tous deux. Hervé et Nathalie sont jumeaux, ils ont 25 ans. Blonds, grands, minces. Leurs visages sont semblables, mais l'on sent une certaine dureté chez Nathalie. La mère est fière de ses deux enfants. Cela la ravit d'avoir des jumeaux. Ils sont tous les deux mariés. Hervé a la fille d'un célèbre chirurgien. Lui, il aide son père dans l'entreprise familiale et pense qu'il lui succédera, dans les industries chimiques, le duc. Nathalie, elle, est mariée à un industriel fabricant d'électroménagers. Il a 10 ans de plus qu'elle. Les jours passent, l'actualité parle de plus en plus des otages, et tout particulièrement de Monsieur le Duc. Le gouvernement a prévenu la famille qu'il a envoyé un négociateur. Mais c'est très difficile car on ne sait pas vraiment qui a pris les otages. Un soir, la mère et les deux enfants sont réunis au salon. Hervé dit à sa mère, « Mère, voilà 15 jours que père est prisonnier et nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Il faut nous organiser, remplacer père dans ses affaires, voir ses comptes, ouvrir son courrier pour répondre aux urgences. Si nous ne le faisons pas cela, nous risquons, et lorsque père reviendra, de nous trouver à la rue. » « Qu'en pensez-vous, mère ?» La mère soupire.
« Oui, je comprends. Mais ouvrir le courrier de ton père, fouiller dans ses affaires. Tu sais que ton père, s'il l'apprend, il se mettra dans une colère terrible. »«
Et si nous ne le faisons pas, il se mettra encore dans une colère plus terrible, parce qu'il saura que l'on ne s'est pas occupé de ses affaires. »«
Qu'en penses-tu, Nathalie ?»
Je suis du même avis qu'Hervé. Nous ne savons pas combien de temps cette situation va durer. Il faut prendre des dispositions.
C'est comme pour toi, mère. Tu ne peux pas rester des jours et des jours près du téléphone. Il faut continuer à vivre. De toute façon, on ne peut rien faire. Hervé va s'occuper des affaires de père et moi de toi.
Il ne faut pas, mes enfants, et vos conjoints.
Ils sont prévenus. Hervé demande. « Alors, mère, que décidez-vous ?»«
Puisque vous avez décidé ainsi, allez-y. »«
Très bien, mère. Je viendrai demain matin. Nous ouvrirons le bureau de père. Au préalable, j'aurai été chercher le courrier à son bureau. » Le lendemain matin, Hervé sonne à la porte de l'appartement de sa mère. Il a à la main un sac de voyage bleu roi. La mère lui ouvre.
Bonjour, Hervé.
Bonjour, mère. Il entre. Elle ferme la porte. Il l'embrasse. Ils vont au bureau de père. La mère ouvre la porte qui est fermée à clé. Elle entre et ouvre la fenêtre et les volets. C'est une grande pièce avec près de la fenêtre et au centre un grand bureau, un fauteuil en cuir. En face du bureau, deux chaises, une bibliothèque, une table avec une machine à écrire dessus. Les meubles sont en style anglais, en bois acajou. Hervé entre et s'assoit au bureau. Sa mère reste debout devant lui et le regarde.
Si ton père nous voyait ainsi, ça lui ferait un drôle d'effet de te voir à sa place.
Hervé se lève, prend le sac de voyage, l'ouvre et déverse le courrier sur le bureau. Des piles de lettres, journaux, publicités. Il commence à ouvrir les lettres. Mère, si vous voulez m'aider, prenez les lettres, regardez de quoi ça parle et mettez-les dans une des catégories. Facture, commande, rendez-vous et le reste. Elle s'exécute. Une demi-heure plus tard, ils ont presque fini. Sa mère lit une lettre. Tout à coup, elle pâlit, perd l'équilibre tout en gardant la lettre dans la main. Hervé accourt vers elle et la maintient. Vous n'êtes pas bien, mère? Je vais vous mener dans votre chambre, vous vous reposerez. Elle tient toujours serrée et froissée dans sa main la lettre. Hervé la mène dans sa chambre. Et l'allonge sur son lit.
Ton père a une maîtresse.
Quoi?
Tiens, lis.
Il prend la lettre et lit. Le salaud! Et il met la lettre dans sa poche. Remettez-vous, mère. Il ne mérite pas votre chagrin. Je n'aurai jamais cru ça de lui. Les jours passent. La mère se remet peu à peu de sa surprise et ne pense qu'à se venger. En faisant les comptes financiers du père, ils se sont aperçus qu'il n'était pas aussi riche qu'ils ne le pensaient. Ils sont dans le bureau du père. Nathalie est furieuse. Il a dû dilapider la fortune avec sa maîtresse ou ses maîtresses, pourvu qu'il ne l'ait pas mis sur son héritage. Alors ça, ce serait le comble. La mère dit.
Faudra savoir qui est cette fille, si on doit agir.
Ne vous en faites pas, mère. J'ai gardé la lettre. J'irai faire un tour chez cette fille. Tous les trois sont tellement pris et passionnés pour défendre leur fortune, qu'ils ont complètement oublié que le père est en otage. S'il était mort, ça aurait été pareil. Ce qui compte, ce n'est plus le père, mais ce qu'il a laissé. Malgré tout, il n'oublie pas en public et devant les autorités de jouer les familles et pleurer. Hervé, par curiosité, et pour connaître la vie intime et infâme de son père, décide d'aller voir sa maîtresse. C'est un plaisir étrange qu'éprouve un fils à savoir que son père, lui, le chef de famille, celui qui l'a moralisé et puni pour ses petits écarts, son père, lui aussi, a fait des choses immorales. Quitte l'hôtel particulier où habite sa mère, boulevard des Belges, pour aller rue Vendôme où se trouve la maîtresse de son père. Il décide d'y aller à pied. Il fait doux pour un après-midi de mai. Il est dans un état d'excitation très grande et ne sait pas s'il pourra se dominer. Calme-toi, autrement tu risqueras de lui jeter à la figure toutes les injures possibles et imaginables. Arrivé devant l'immeuble, c'est un immeuble ancien cossu, il entre. L'allée est en marbre blanc, il regarde sur les boîtes aux lettres. Sylvie Dupin, troisième étage. Il monte jusqu'au troisième. Et va sonner à la porte. Lui ouvre. Jeune fille blonde, cheveux longs qui ondulent, de 20 ans à peu près. Grande, mince, belle comme une fée. Elle a une robe rose. Hervé est surpris et ne sait que dire. Il s'attendait à une vieille de 45 ans, genre pute entretenue, et trouve la chose la plus jolie qui soit.
Vous désirez, monsieur? Je suis venu, au sujet de Xavier Leduc. Xavier? Entrez.
Elle le fait entrer et le conduit au salon. Elle a un charmant de pièces meublé avec goût et élégance en Louis XV. Les tapisseries sont très claires, gris pâle. Hervé sent une odeur de fraîcheur l'envahir. Ce n'est pas du parfum, mais quelque chose de très léger. Elle le fait entrer dans le salon et asseoir sur une chaise. Elle s'assoit aussi à côté de lui.
Je vous écoute, monsieur. Vous avez des nouvelles?
Hervé ne sait que dire. Quoi faire? Il se sent honteux?
Non, je n'ai pas de nouvelles. Mais qui êtes-vous? Le secrétaire particulier de monsieur le duc.
Oui. Mon patron et moi, nous disions tout et nous étions très liés. Il m'a parlé de vous. Après l'enlèvement de monsieur le duc, j'étais très inquiet pour vous. Alors je suis venu savoir si vous n'aviez pas besoin de quelque chose.
Je vous remercie, parce que j'aimerais avoir des nouvelles de mon Xavier. Je suis très inquiète, vous savez.
Vous l'aimez beaucoup?
Oh oui, oui.
Ce oui, oui rend jaloux Hervé.
Eh bien, si vous n'avez besoin de rien, je vais vous quitter.
Il se lève.
Vous pouvez rester encore un peu si vous le désirez. Non, non, j'ai affaire.
Et il la quitte. Le chemin du retour, sa jalousie s'apaise et il ne reste plus que l'image de la belle jeune fille. Il en oublie qu'il est marié et qu'elle est la maîtresse de son père. Il a suivi le parcours qui le mène jusqu'à chez sa mère comme un somnambule. sa mère qui lui ouvre. Il entre.
Alors, tu as vu cette femme ?
Oui.
Que lui as-tu dit ?
Rien, ce que nous avions prévu.
Que t'a-t-elle dit ?
Ça n'a jamais été ses intentions de nous porter tort. D'ailleurs, elle va rompre avec notre père dès qu'il sera de retour. Ce n'était qu'une aventure sans importance.
Je te remercie pour moi.
Hervé ne cesse de penser à Sylvie et décide d'aller la revoir. Il sonne à sa porte avec un bouquet de fleurs.
C'est vous ? Oui. Entrez. Tenez, des fleurs, mais il ne fallait pas.
Il entre. Elle le conduit au salon. Et ils s'assoivent comme la première fois.
Je suis venu vous voir, c'est parce que j'étais triste de vous savoir seul. Merci. Je vis un moment assez difficile, vous savez. C'est très dur de se voir en danger d'être cher. Vous savez, j'aime d'une façon très forte, Xavier. Pour moi, c'est plus qu'une petite liaison comme ça. Non, c'est beaucoup plus fort. Et lui aussi m'aime beaucoup. Je sais qu'il est marié et a des enfants. Ce qui me le fait aimer aussi, c'est qu'il aime aussi sa famille et qu'il souffre beaucoup de les tromper. Et il n'y peut rien. L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il a un côté touchant, presque enfant. Malgré qu'il soit plus un adolescent, il a des timidités de jeune garçon. Même les jeunes de mon âge ne sont pas aussi jeunes que lui. Il passe ses soirées à me lire des vers de Ronsard me tenant la main. Elle sourit. Je dois vous ennuyer ? Non, cela ne l'ennuyait pas. Il est triste, car il se dit qu'il ne pourra jamais rivaliser avec son père, et ému, parce qu'il ne se serait jamais imaginé son père comme cela. Malgré tout, il est toujours ébloui par cette jeune personne qui est à côté de lui. Mais il a l'impression que s'il cherche à la conquérir, ce serait un crime que de détruire et de désunir cet amour qu'unit ces deux êtres. Vous voulez boire ? Non, merci. Vous êtes marié ? Oui. Ma femme et moi, nous entendons pas très bien. Il baisse la tête. Il semble triste et ému. Cela la touche. Ce ne doit pas être drôle de vivre avec une personne que l'on n'aime plus. Il lève la tête.
Il voit ses beaux yeux bleus, les yeux de Xavier sur un visage jeune et triste. Il se lève.
Parce qu'il voit que la conversation risque de s'enliser dans un sujet fort désagréable, je dois vous quitter. Déjà ?
Ce déjà lui fait plaisir et décide, malgré ce qu'elle vient de lui dire, de revenir. Mais il ne fera rien pour désunir ces deux êtres dont l'un est son père. Le temps passe, les jours, les semaines, les mois. Hervé s'occupe des affaires de son père comme il peut. Cela n'est pas facile car les actions baissent un petit peu chaque jour. La fortune du père n'est pas aussi considérable qu'il le pensait. Nathalie eut une violente discussion avec son mari à cause de cela. Françoise se laisse guider par ses enfants. Elle se désintéresse du sort de son mari et se rend compte que la vie est très bien, mais mieux sans lui. Elle ne souhaite même plus son retour. Hervé, en cachette de la famille, verse une petite pension à Sylvie. Il l'aime toujours autant et souhaite inconsciemment que son père ne revienne pas. Peut-être qu'à la longue, elle pourra l'oublier et m'aimer. Elle le trouve de plus en plus charmant. Il lui arrive, même lorsqu'il est près d'elle, d'en oublier Xavier. Lorsqu'ils se disent au revoir et qu'elle lui tend la main, elle sent sa main chaude et douce dans la sienne. Cela lui donne des frissons. Il est vrai que d'une façon biologique, plusieurs mois sans rapport intime, ça manque à une jeune fille de 20 ans qui avait l'habitude d'en avoir régulièrement. Et puis, elle commence à s'ennuyer. Rester enfermée des journées entières à entendre l'être aimé, ce n'est pas drôle. N'est pas Pénélope qui veut. Elle se dit aussi que cela pourrait durer des mois, comme des années, ou qu'il ne pourrait ne pas revenir, ou que s'il en revenait, quel état ? Il paraît qu'une épreuve comme celle-là les change beaucoup, physiquement comme moralement. Alors que faire ? Vivre comme une veuve ? Pleurer les restants de ses jours ? À 20 ans, c'est dur d'y penser et de ne plus avoir d'avenir. Un soir de juin, alors qu'il fait particulièrement chaud, ils sont tous les deux au salon. Sylvie soupire, Hervé aussi. Ils ont particulièrement envie l'un de l'autre. Ils sont irrités par cette situation ambiguë. La faute n'est plus à cause du père. Ils l'ont oublié, mais c'est dû à leur intimité. Tout à coup, le tonnerre, l'orage éclate. Dit-elle en frissonnant. J'ai peur de l'orage. Il se lève et s'approche d'elle. En se penchant, il lui dit. Il ne faut pas avoir peur. L'électricité s'éteint, l'orage gronde. Sursaute et se lève. La prend dans ses bras. Le bruit de l'orage, les éclairs qui éclairent la pièce par intermittence. Les bras d'Hervé, elle se sent prise comme dans un tourbillon. Lui la sent frileuse tout contre lui. N'en pouvant plus, il l'embrasse sur les lèvres. Elle s'abandonne. Lancés l'un contre l'autre, Hervé bande très fortement. Il en prend dans ses bras et ne dit rien. Elle a les yeux fermés pour ne pas voir les éclairs. Il l'amène dans la chambre. Une chambre qui semble prise par le tourbillon de l'orage. La met sur le lit. Elle a toujours les yeux fermés. Il se penche sur elle. Tout en la caressant, il lui enlève sa robe. Deux seins énormes et fermes en sortent. Il met la main dans la petite culotte blanche à dentelle. Elle se tortille de plaisir. Enlève la culotte,
Il se relève et se déshabille. Le secteur aide, il se penche sur elle. Et au milieu de l'orage, des éclairs, du tonnerre, dans une chambre éclairée par le passage des éclairs, il la fait jouir. Vêtements à terre, dans les draps froissés, ils dorment nus, heureux. En se réveillant, Hervé est inquiet. Que va-t-elle dire ? Elle se réveille aussi et lui sourit. « Bonjour Hervé !» Elle lui donne un baiser sur la joue. « Bonjour Sylvie. Qu'est-ce qui ne va pas Hervé ? Sylvie, j'ai peur que tu m'en veuilles. Mais non, pourquoi ? Il faudra me promettre, c'est que quoi qu'il arrive, de croire à mes sentiments pour toi. Je te le promets. Je crois que je t'aime. Il sourit de bonheur. Nathalie et son mari ont fait quelques dettes en menant la grande vie. Et puis elle a un amant de corps, un petit gigolo de 18 ans. Elle lui a fait passer son permis et acheter une voiture. Un soir, elle est seule avec sa mère. Elles sont toutes deux assises au salon.
« Mère, il faut que vous m'aidiez. Nous avons fait de mauvais placements à la bourse. Les affaires de Fernand ne marchent pas très bien. Pour en sortir, j'aurai besoin d'un million avant la fin du mois. »«
Où veux-tu que je trouve cette somme ?»«
Dans les affaires de père. »«
Je ne peux pas, ça appartient à la société. » »«
Tu n'as qu'à truquer les comptes. » Comment faisait père ?
Nous ne sommes pas sûrs que père l'ait fait.
Vous n'allez pas me dire, mère, le peu de fortune que l'on a trouvé ? Si vous ne m'aidez pas, cela fera un très mauvais effet de savoir que la fille de le duc est ruinée, déjà que l'on jase beaucoup sur vous.
La bourse a remonté.
Que dirait-on, mère, si l'on savait que vous avez un amant alors que votre mari est prisonnier d'une bande de sauvages ?
La mère se lève.
Mais c'est du chantage.
Si vous ne me donnez pas les 1 million, j'envoie un article à Libération sous le titre « Pendant que le mari risque la mort en prison, Madame se paye un gigolo ».
J'accepte, petite garce.
Il est vrai que Françoise le Duc a succombé au charme de l'associé de son mari qui, lui, ne cherche que de s'accaparer des biens de son associé.
Les jours passent. Hervé entretient toujours et est l'amant de sa maîtresse de son père. Nathalie dilapide l'argent de son père avec son mari et son amant.
Françoise vit une grande histoire d'amour avec l'associé de son père qui, lui, ne voit que le portefeuille de son associé.
Un jour de septembre, alors que Françoise vient de dire au revoir à son amant, la sonnerie du téléphone retentit. Elle décroche.
Allô ?
C'est Xavier, c'est moi.
Ah, c'est toi.
Bonjour ma chérie, je suis libre, je suis à l'aéroport, j'arrive.
Ah !
Je viens.
Oui.
À tout à l'heure.
La barbe, il est de retour.
Elle a prévenu ses enfants. L'on sonne à la porte d'entrée. Elle va ouvrir.
Bonjour Françoise.
Il se penche pour l'embrasser. Elle se dégage.
Bonjour.
C'est un homme grand, mince, presque maigre.
les cheveux grisonnants, les yeux d'un bleu profond. Il est habillé comme en plein hiver, avec un par-dessus grisol.
T'avais plaisir de revenir.
Elle le mène au salon. Il sourit en apercevant ses enfants qui sont assis.
Oh, mes enfants, je suis heureux de vous revoir.
Il s'approche vers eux. Pas de réaction. Il voit que tout le monde fait la tête.
Mais qu'avez-vous donc? Et cette surprise de me revoir? Parlez.
La mère lui dit.
Ça pour une surprise. Nous sommes surpris. Tu nous surprendras toujours.
Vous n'êtes pas heureux de me revoir? Je suis votre père, votre mari. Je ne comprends pas pourquoi cette froideur. Je ne suis plus votre père bien-aimé.
Elle s'approche de lui et lui dit.
Ne va pas nous jouer la comédie. Nous savons tous que tu entretiens une jeune fille.
Il pâlit.
Comment avez-vous su cela?
Par une lettre.
Tu lis mes lettres?
Nathalie lui dit. Il fallait bien les lire et s'occuper des affaires. Il fallait bien vivre. Tu nous as pas laissé beaucoup d'argent. Ça coûte cher, une maîtresse. Il hausse ses épaules.
Mais qu'est-ce que vous racontez là? Et alors, j'avais une maîtresse? Ça ne vous regarde pas.
Hervé se lève. Dit.
Et mère qui est une sainte, qui ne t'a jamais trompé?
Nathalie.
Si ça nous regarde, puisque tu as dilapidé l'argent de la maison.
Le père recule.
Arrive, j'ai su rester en otage des mois. Chaque jour, je risquais de mourir et...
La mère lui dit.
Ça, c'est vite dit. Qui me dit que tu as été libéré ou été otage? Tu débarques comme ça? La radio, les journaux n'en parlent pas. C'est bilouche, non?
Non, parce que pour me libérer, l'État a dû donner entre autres parties des armes. L'échange n'est pas fini. L'on parlera de mon retour officiellement que lorsque ce sera fini. Bon, eh bien, que faisons-nous? Devons-nous nous entre-déchirer ou recommencer à vivre ensemble? Françoise.
Pas de réponse.
Hervé.
Pas de réponse.
Nathalie.
Pas de réponse.
J'ai compris.
Et il sort. Il sonne à la porte de Sylvie. Elle ouvre.
Ah, c'est toi?
Oui.
Entre.
Il entre.
Tu n'es pas heureuse de me revoir?
Le regarde bien. Le trouve vieux, moche, à côté d'Hervé. Elle le fait rentrer au salon. Il s'assoit.
Tu es heureuse de me revoir?
Elle reste debout devant lui et se demande ce qu'elle va en faire.
Oui?
Ça ne me semble pas.
C'est-à-dire que, autant te le dire de suite, j'ai rencontré...
Il se lève.
Ça va, j'ai compris.
En passant devant une table basse, il voit un cadre, la photographie d'Hervé. Il la prend et la lui montre.
C'est ça la nouveauté?
Elle baisse les yeux.
Eh bien, ça ne sortira pas de la famille.
Et il repose le cadre sur la table. Il se dirige vers la sortie. Et sort. Il a pris de l'argent à la banque, une chambre à l'hôtel Royal Place Bellecour, et deux jours plus tard, il est avec son avocat et son notaire dans sa chambre.
Écoutez bien, je divorce, je quitte la société et vends toutes mes parts. Voilà le travail, et il faut que ce soit fait le plus rapidement possible.
Allez, jette-toi. Allez.
6 mois plus tard, il s'est acheté une petite maison en Savoie, vers Moutier en Tarentaise. Il vit retiré du monde.
Depuis ma libération, j'arrive pas à vivre comme tout le monde. Les gens, la foule me font peur. Le vide aussi, les grands espaces. Je suis resté trop longtemps enfermé entre 4 murs. Le bruit aussi me fait peur. Les coups de feu me font faire des bonds. Et je ne supporte pas la nuit. Ne regrette pas ma vie passée, ma famille. Tout est basé sur le mensonge. Il avait appris ma maîtresse et l'entretien. C'est ce qu'il me reprochait. Nathalie, j'ai appris par une de mes connaissances qu'elle dilapide l'argent de la famille. C'est ce qu'elle me reprochait. Et Françoise est la maîtresse de mon associé. Tels des vautours, ils se sont rués sur ce que je laissais. Mais ils n'ont pris que des choses sans importance. Ils m'ont purifié en prenant mes défauts. Les vautours ne prennent que ce qui est périssable et devient pourriture. Le reste, ils ne peuvent le prendre, car le reste, c'est la part des dieux. Comme dans l'Antiquité, lors du sacrifice, la viande était partagée entre les hommes. Et la part du sacrifice pour les dieux était la fumée, l'âme, l'esprit, ce qui reste éternel.
Vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien et Jean-Pierre, Les Vautours. Production, mise en scène, Julien et Jean-Pierre, enregistrement.